toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues, donc, c'est le papier. Lundi, anthropologie et histoire pour une émission qui allait de la première carte d'identité en 1921 en France, au quotidien harassant des personnes sans papier en France, toujours. Mardi, le recyclage était vu par, d'un côté, le leader indépendant français du secteur et, de l'autre côté, une petite entreprise d'éco-design de papeterie. Deux visions différentes. Et hier, nous nous passionnions pour les dessous techniques des révélations des Panama Papers. Et demain, on le disait à l'instant, les papiers seront animés. En attendant aujourd'hui, entretien croisé avec trois artistes. Alors, tout jeune poète, l'auteur Olivier Cadio ouvre une grammaire française et remarque un texte qui lui semble parfait. Un italique idéalement placé au centre, les lignes exactement comme elles devaient être, et il le veut. Et il le veut tel quel. La typographie l'émerveille, le fait presque pleurer. C'est le jour de l'entrée du cutter dans sa vie. Il passe ensuite 5 ou 6 ans à découper des grammaires qu'aurait pu lire Rimbaud en classe et fait du cutter son instrument rêvé. Il essaye tout, jusqu'au cutter stylo par exemple, discret certes, mais abandonné parce que les angles de coupe du papier qu'il obtenait ne le satisfaisaient pas. Il se met à collectionner le cutter en grand nombre, dont il devient expert. Le cutter, raconte-t-il, c'était comme le pinceau des archéologues qui font des fouilles, époussettes, révèlent. C'était pas le grand cutter de Burroughs ou des surréalistes. Le travail qui consistait à extraire les petits trésors dans des endroits où ils ne devaient pas être. J'adore cette histoire. Aujourd'hui, on la poursuit. Papier découpé, creusé, sculpté, collé. Il est 14h passé de 2 minutes. Quels sont vos outils ? Dans les nouvelles vagues, lorsque nous demandons à quelqu'un d'identifier 5 moments qui ont constitué pour eux des expériences fortes, il ou elle s'attache à décrire le moment, le lieu et parfois les personnes. Des descriptions, il y en a bien sûr dans les récits de Dominique Petitgand, mais aucun nom et aucune date, ce qui n'est pas sans rappeler la manière dont il travaille ses propres créations sonores. Aujourd'hui, il nous raconte combien la lecture qu'on lui fait d'un texte le laisse loin et loin du sens. Alors il décide de ne plus tout vouloir comprendre. Récit vers 14h50. C'est le 4e moment d'une semaine consacrée au papier et il était temps de venir au plus près de la matière. En matière d'art, le papier a des habitudes de support. C'est lui que l'on griffonne pour une esquisse, c'est lui que l'on plie, replie pour un origami, c'est sur lui le fusain, la sanguine, le crayon, le pinceau. Mais à cet usage majoritaire et ancestral, il vous arrive de substituer toutes les trois et chacune à votre manière un autre usage, faire du papier la matière première de votre œuvre, en le laissant sans toujours le souligner, être aussi et parfois le sujet de cette œuvre. Car si le papier emballe, il est aussi celui que l'on imprime, vecteur de mémoire, de discours et d'images, et ses fonctions sont si prégnantes dans notre vie qu'elles ne disparaissent jamais exactement dans vos œuvres. Georgia Russell, bonjour.
Bonjour.
Vous découpez dans des livres pour des œuvres qui deviennent parfois jusqu'à des parures, on en parlera. Bonjour et bienvenue.
Oui, merci.
Le livre, la littérature, la lecture ne sont jamais exactement très loin de votre travail, Nathalie Boutet. Je pense qu'à Book Ends ou à La Disparition, qui sont des œuvres, pour la dernière, qui font directement écho à Georges Perec. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et quant à vous, Eva Jospin, on remonte peut-être davantage aux origines du papier, mais pas que, avec vos forêts, dont on peut voir un exemple en ce moment dans la cour carrée du Louvre, avec l'installation et l'œuvre Panorama. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Un homme. On peut dire légèrement ambré, ou ocré, ou paille, et encore que ce soit très léger comme nuance. Simplement, j'ai voulu que notre papier reçoive la lumière comme... Dans la grâce et non pas dans la difficulté. J'ai vraiment horreur de ce rapport de la lumière avec un papier trop blanc, probablement parce que à force d'exercer ce métier, j'ai des yeux très vulnérables et j'ai beaucoup de mal à poursuivre la lecture de livres en blanc. Je crois me souvenir que c'est un papier qui doit faire dans les 125 grammes et c'est un papier, comme on dit, qui a une main extrêmement agréable. J'essaye de rameuter mes termes techniques là. C'est un papier qui n'est pas trop cartonné, c'est-à-dire qui n'a pas ce côté un peu dur, un peu tôle. Il a au contraire une souplesse, mais il a aussi une résistance, c'est-à-dire qu'en tournant les pages, on ne risque pas de le froisser tout à coup. Moi, j'aime un papier qui se laisse caresser, c'est-à-dire que on ne glisse pas sur le papier. Quelque chose imperceptiblement vous retient et vous donne un peu l'impression que le contact est ressenti par le papier. C'est un affreux anthropomorphisme, ça. Mais on a un peu l'impression, quand on a un beau papier verger, que le papier répond à la caresse. On dit que les plantes sont quelquefois sensibles aux voix. J'ai un peu l'impression que le papier auquel je suis attaché est un papier qui me donne l'impression d'être lui-même sensible au toucher, et j'aime aussi qu'il soit très souple, qu'il obéisse à la caresse d'une certaine manière, mais en même temps qu'il ne se laisse pas aller, qu'il ne se froisse pas, enfin qu'il ne se prostitue pas à la caresse, en quelque sorte. On va loin, non ?
On va loin, c'est lui-même qui le dit, Hubert Nissen, dans cette archive de 1989. C'est une émission diffusée dans les nuits magnétiques, produite par Pascal Charpentier. Il est question du toucher, mais aussi d'un aller-retour réel entre la matière et celui ou celle qui est proche ou proche de la matière. Comment est-ce que vous arrivez proche de cette matière-là et du carton?
Au départ... Le carton, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est un matériau qui est présent dans l'histoire de l'art et qui traîne toujours dans les ateliers. Mais généralement, ça ne devient pas la matière exclusive du travail de l'artiste. C'est une matière qui se retrouve en catimini. On la voit, elle apparaît chez Picasso, elle apparaît chez Braque, on l'aperçoit chez Basquiat. Et en même temps, par exemple, on dit un carton pour désigner le dessin préparatoire d'une tapisserie, par exemple, ou d'une fresque. Donc c'est quelque chose qui est là. C'est des rendez-vous comme ça, à des moments, mais pas l'exclusivité généralement d'un travail. Et moi, au départ, le carton, je m'en suis toujours servi, mais plutôt comme support. Donc au départ, j'allais l'enduire de colle de peau, par exemple, et puis j'allais faire une petite peinture, un dessin, des choses comme ça. J'avais travaillé avec du papier goudronné aussi, donc c'est un craft.
C'est quoi ?
C'est une chose magnifique, mais il n'y en a plus, parce que maintenant, le papier goudronné qu'on trouve, il est toujours armé. C'est-à-dire qu'en fait, il a des quadrillages de ficelles. Mais avant, on trouvait ce papier goudronné qui est donc du craft avec une couche de goudron et une autre couche de craft. Donc, c'est un sandwich, en fait, de goudron avec deux couches de craft.
Et c'est quoi sa particularité, alors?
Du coup, ça fait un mélange de couleurs absolument incroyable, parce que le marron du craft se densifie et devient pétrole et arrive à une espèce de profondeur de couleur. Donc, j'aimais beaucoup travailler là-dessus aussi, mais après, j'en ai plus trouvé. Mais tout ça, c'était toujours pour peindre quand j'ai commencé aux Beaux-Arts, et pas encore pour utiliser exclusivement la matière et sortir tous les autres éléments, c'est-à-dire le dessin, la peinture, etc. Et pour moi, le carton, donc j'avais toujours un peu abordé ça, est devenu ma matière principale à un moment où j'ai changé d'atelier. J'avais donc plein de cartons de déménagement que j'avais conservés en me disant « on verra, j'en ferai peut-être quelque chose ». Mais l'idée que ça pouvait éventuellement arriver à un moment dans un travail. Et à ce moment-là, je me posais des questions de production. De coûts de production, de temps de production. Donc j'étais en train de demander des devis partout pour faire des énormes sculptures en résine. Et tout ça devenait vraiment ingérable parce que, en fait, j'envoyais des mails et puis je recevais des devis. Et tout ça n'était pas très passionnant. Enfin, moi, j'avais un besoin de retour à la main. Et je me suis dit, je vais remplacer le temps, je vais remplacer l'argent par le temps. C'est-à-dire que finalement, je prendrai beaucoup de temps pour faire une œuvre que j'aurais mis un certain temps à produire en trouvant les financements. Donc en fait, j'ai remplacé le travail par la main, une forme de lenteur, grâce à un matériau qui était disponible à profusion, qui coûte rien, qui est toujours là, qui est un rebut. Et qui est aussi un matériau très beau parce que on peut aisément avoir des repentis comme en peinture sans se préoccuper de perdre de la matière. Donc c'est bien, on garde, c'est pas bien, on arrache, on recommence. Donc ça donne une grande souplesse et une grande liberté. Voilà, ça a commencé comme ça pour moi.
Est-ce que vous diriez, Nathalie Boutet et Georgia Russell, qu'il y a l'idée d'un matériau pauvre ou en tout cas un matériau à disposition qui vous a emmené vers lui?
Pour moi, c'est l'essentiel, c'est que le papier porte des sentiments, en fait, comme les livres usés, les images de vieux photos que j'ai agrandies et j'imprime sur un papier. il porte une sorte de, des émotions, en fait. Parce que je suis émerveillée par la littérature et par la musique. Et c'est le langage qui est matière, mais qui devient non-matière, c'est-à-dire les idées ou les émotions. Donc moi, je suis entre trouver un livre qui a été lu déjà par 10 personnes, je vais le transformer ou le montrer comme un vaisseau d'émotions et de partage et des idées, en fait. Donc la sensation de le papier, pour moi, c'est le langage que ça porte, en fait.
Et ça veut dire que vous arrivez à lui, au papier, par le livre ou par ce qui se lit ?
Oui, au début, c'était vraiment ça, il y a 12 ans ou quelque chose comme ça, où j'ai commencé peut-être plus. Donc oui, j'étais plus attirée par les livres chez les bouquinistes au bord de la Seine quand je suis venue à Paris pour mon résidence. Et j'ai vu tous ces titres, les livres de tous les âges qui faisaient un sorte de cercle de temps, des idées qui reviennent, qui en fait se modifient, se changent, mais pas autant que ça en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc oui, le livre au début m'a inspirée pour les sujets et aussi pour l'idée des gens et des cerveaux dans lesquels il a passé.
Matériel et immatériel du côté de Georgia Russell. Comment vous arrivez à cette matière, Nathalie Boutet ?
Je suis assez proche de Georgia, à savoir que j'ai commencé moi aussi avec des romans. J'aime bien le papier qui véhicule quelque chose, donc avec de l'écrit c'était parfait. Et puis j'ai commencé à bifurquer sur un peu toutes les sortes de papiers, sur du calque, sur du billet de banque, je retrouve aussi l'histoire, les billets de banque, c'est pareil, un papier oui. Que tout le monde a touché, donc ça, voilà. Mais dans l'extrait sonore tout à l'heure qu'on a écouté,
du Bernissen.
Voilà, le toucher du papier est extrêmement important et plus j'avance dans mon travail et plus je descends dans les grammages et j'essaye de prendre des grammages de plus en plus fins des papiers japonais parce que il y a une légèreté qui émane de ce papier qui me permet à moi de d'essayer de transformer un collage presque en sculpture, voilà. Et moi, l'idéal, ce serait effectivement de trouver, je pense pour un prochain travail, un papier bible, où là on est sur du papier très très fin, ou les romans La Pléiade, et qui est un papier qui est traité anti-opacité, donc c'est parfait. Et là, je peux laisser émerger le texte, le peindre, mais le papier au toucher a énormément d'importance, et les sentiments qu'on trouve par ce papier, c'est un matériel vraiment très spécifique.
Vous dites que vous allez vers des grammages de moins en moins importants, oui. Ce qui fait que vous allez aussi généralement vers des papiers plus fragiles.
Oui.
Souvent c'est corrélé, quand même la plupart du temps. Ça veut dire que vous allez vers de plus en plus de fragilité de votre matière.
Oui, il y a effectivement, là je travaille beaucoup avec des papiers japonais, je dois être à peu près dans les 45 grammes. Et c'est un papier qui supporte la colle, mais très peu. Voilà, donc il faut y aller en douceur et voilà, sinon il reste collé sur les doigts. Mais il apporte une légèreté à l'œuvre que je ne retrouve pas avec un papier de roman qui est beaucoup plus raide, qui a une tenue plus rigide, qui est un grammage plus épais.
Eva Jopin décrivait tout à l'heure un atelier où le carton est déjà là. On imagine que le papier japonais est un tout petit peu plus difficile à trouver. En tout cas, il n'arrive pas comme ça directement après des déménagements. Vous vous fournissez où ?
Ah ah ! Alors moi, je me suis renseignée. J'ai lu un livre d'Eric Orsena qui s'appelle « Sur la route du papier ». Où il refait c'est un petit précis de mondialisation, où il refait tout le parcours d'où vient le papier depuis le début. Et son livre se termine sur son passage dans une boutique qui est à côté des Beaux-Arts à Paris, qui s'appelle Sennelier, que beaucoup d'artistes connaissent, et qui a un étage assez magique, parce que c'est une boutique ancienne. Donc quand on rentre dans cette boutique, il y a une atmosphère, et à l'étage, il y a des papiers japonais qui sont d'une finesse formidable, mais qui ne sont pas extrêmement suivis, parce que la personne qui s'en occupe, justement, ne Il n'y a pas un système de production massif, donc ça j'aime beaucoup. Il va chercher ses papiers, il ramène des beaux papiers de qualité, et voilà. Donc quand j'y vais et que je trouve une pile de papiers qui m'intéresse, en général je prends la moitié de la pile ou voire toute la pile en me disant après il n'y en aura plus et je repars avec des kilos de sacs de chez eux.
Ça veut dire, Raphaël Jospin, que vous êtes loin de ce rapport à la rareté quand vous travaillez le carton. Vous êtes dans quelque chose qui est forcément là et facile à trouver.
Oui, alors ce que vous avez raconté sur le papier,
ça vous est pas étranger non plus.
Non, parce que je dessine aussi et j'ai commencé aussi à faire des encres récemment. Donc j'ai retrouvé aussi cette espèce de fétichisme, d'émotion autour du papier. Donc je le comprends très très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément pour l'usage principal de mon travail, mais. Voilà, mais après il y a une histoire du carton aussi, parce que comme une partie du carton que j'utilise je le récupère, en fait il arrive de partout, donc il a des couleurs différentes, des épaisseurs différentes et surtout des inscriptions, donc parfois c'est la Chine, parfois c'est autre chose. Il y a des moments où j'ai presque envie de garder des mots que je vois sur les cartons et presque en faire l'œuvre aussi, parce que c'est amusant, c'est comme si un message nous arrivait. Donc en fait, c'est pas indifférent. Et par exemple, il y a un type de carton, je me souviens d'un carton un peu plus résistant et en même temps légèrement jaune orangé, une couleur qui se trouve assez peu. Et j'en avais pas beaucoup, donc pareil, je l'utilisais que pour faire certains détails dans certaines branches, voilà. Donc et je sais que je le retrouverai pas parce que c'était un carton chinois, je crois. Donc voilà.
Alors même question, vous vous fournissez où ?
Alors je me fournis. Je me suis fournie dans plein d'endroits. Je me suis fournie d'abord dans le Sentier.
Un quartier à Paris.
Ouais, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de boutiques de prêt-à-porter. Et donc, ils jetaient du carton tous les jours à 17h. Il y avait du carton, des piles de carton devant toutes les boutiques du Sentier. Puis elles ont déménagé, parce qu'en fait, maintenant, il y a moins en moins de boutiques dans le Sentier. Et alors après, j'allais Porte d'Aubervilliers. Il y avait toutes ces boutiques de prêt-à-porter chinois, assez atroces, il faut dire. Mais à 17h, avant que la benne qui écrase le carton passe, parce qu'il y a des bennes qui passent, j'en récupérais. Et puis à un moment, c'était un peu compliqué, donc j'ai trouvé une zone industrielle à Pantin, énorme, et il y a des hangars les uns à côté des autres, et devant chaque hangar, il y a des bennes qui sont pour la plupart remplies soit de palettes, soit de cartons. Donc j'allais là-bas, et je continuais à aller là-bas avec une camionnette de temps en temps quand mon stock s'épuise. Et puis pour le projet que j'ai fait là à la Cour Carrée, c'était impossible de travailler qu'avec du papier, qu'avec du carton recyclé, parce que il fallait aussi avoir quand même une espèce de stabilité du matériau, avoir une base un petit peu plus solide, un petit peu plus régulière.
Apparence, vous voulez dire cette stabilité-là ?
Dans son apparence, et puis surtout pour la travailler, parce que comme c'est un projet que j'ai fait où j'étais pas la seule à travailler, le problème c'est quand on récupère un carton, il y a ses plis. Il y a ces coupures, c'est pas des grandes plaques, on a moins de liberté, on est obligé de faire des assemblages. Donc j'avais besoin d'une base avec des cartons, avec des dimensions adaptées à la pièce que j'allais produire. Et donc j'ai demandé à une très grosse entreprise qui s'appelle Smurfit Kappa, c'est super parce qu'on apprend toujours plein de choses, voilà. Et alors eux, c'est les leaders du carton presque dans le monde.
Ils font des
géants. Oui, et en fait, j'ai choisi avec eux... 5 qualités, très épaisses, très fines. Alors il y a des cannelures, des types de cannelures. On apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Et donc c'est eux qui m'ont fourni en partie, une grande partie pour ce projet.
Bon, voilà. Et on finit le tour des fournisseurs avec vous, oui. Georgia Russell.
Moi, c'est encore les bouquinistes et les vide-greniers. Et sur ce sujet-là, c'est toujours intéressant de voir ce que les gens jettent, en fait. Et littérature, en tout cas, ça nous montre ce qui est moins intéressant pour la culture en ce moment, ou qui a été oublié, les idées, ou les personnes qui ont... Par exemple, j'ai trouvé une série de bibles protestantes quand j'étais en Écosse. Et il y a tellement, justement, de bibles. Là, je fais une série sur ce sujet-là. Je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est un autre grand sujet. Mais oui, donc c'est surtout les choses que les personnes jettent. J'essaie de les récupérer aussi et de montrer aux autres les choses qu'on commence à laisser peut-être à côté. Mmh. Aussi de mettre en qu'on voit aussi les livres que les gens ont choisi de jeter, qui sont aussi très importants. Donc, des fois, les personnes peuvent être blessées par le fait que je modifie les livres. Mais pour moi, c'est de mettre les œuvres en avant pour qu'on discute justement de ce qui se passe vis-à-vis des livres ou de papier, surface papier maintenant.
Que dans ma vie, j'ai volé un livre. Peut-être que j'en ai volé d'autres, je ne sais pas. Mais je me souviens très bien que pendant la guerre, étant adolescent, j'ai volé un livre. Et j'ai médité de le voler pendant des semaines. J'allais le voir régulièrement dans une librairie d'occasion. C'était l'histoire des religions de Salomon Reinach, en édition sur papier Bible. Et non seulement j'étais profondément passionné par l'histoire des religions, et je voulais avoir ce livre que j'étais pas en mesure de me payer, mais de surcroît, il y a eu la fascination du papier Bible, et je suis allé caresser ce livre pendant des semaines et des semaines, jusqu'au jour où la passion, l'érotomanie a pris le dessus, et je n'ai plus résisté, et j'ai pris ce livre comme on enlève une femme.
Hubert Nissen, encore juste après Paperback de Goldfrapp, finalement il prend ce livre de l'histoire des religions, mais il le prend parce qu'il est fasciné par le papier Bible. On a beaucoup parlé du livre et j'ai dit en introduction que cette fonction du papier sur lequel sont imprimées des images et des textes ne disparaît quasiment jamais des œuvres que vous produisez. Presque même le carton de vos forêts, Eva Jospin, dit encore quelque chose du support d'impression. Comme si c'était si fort dans nos cultures et dans nos civilisations qu'on n'était jamais loin du livre, Nathalie Boutet. Vous, c'est assez frontal.
Oui, moi j'aime quand il y a une histoire, quand le papier véhicule une histoire. Donc effectivement, il faut qu'il y ait du texte. Souvent, d'ailleurs, j'inscris moi-même un texte sur les papiers, mais que je suis la seule à pouvoir lire parce qu'il est inscrit à la verticale. Mais je joue avec la typographie. Je graisse les typographies pour donner des nuances, pour refaire une palette de couleurs. Mais j'aime quand le papier a une histoire. Oui, il faut qu'il ait été touché. Le papier Bible, effectivement, est très doux. Ça, je suis une. Les artistes qui travaillent le papier le savent. C'est très doux à toucher. Une fois que c'est encadré, c'est terminé. Plus personne ne peut le savoir, mais c'est un vrai pelage. Hein,
les lecteurs aussi le savent. En même temps, vous disiez hors micro que le coup de cutter, vous ne le mettriez pas dans un papier Bible ou dans un papier de Pléiade. Ça veut dire que le geste, il est aussi tout de même en fonction de ce qui est imprimé ou la valeur de ce que vous coupez.
Oui, je vais finir par y arriver. Mais j'ai un très grand respect du livre. Quand je lis un livre, je n'ai pas de tablette. De liseuse, je lis un livre, je ne corne jamais la tranche, je ne corne pas les pages.
J'ai vraiment tout ce que je fais, quoi.
J'aime quand un livre reste entier et quand j'ai envie de le faire partager à quelqu'un, je lui rachète une autre édition, je ne prête pas les miennes. Mais voilà. Après, effectivement, la Pléiade. C'est difficile de donner un coup de cutter et voilà. Après, bon, petit à petit, on y arrive. Voilà.
Donc, ça a quoi comme valeur de ce geste-là, le coup de cutter? C'est aussi une prise de liberté, hein, de découper dans quelque chose. Oui. Je citais l'histoire d'Olivier Cadieux
au
début.
Quand on coupe quelque chose, on libère quelque part. Oui. Et aussi, mon sensation quand je commence à découper un livre avec un scalpel. C'est que je rentre vraiment dans le livre et dans la sensation de lire ce livre. Donc je mets en sculpture les émotions ou le temps qui passe quand on lit, la modification des pensées de avant et après avoir lu un livre qu'on peut avoir. Donc pour moi, je sais que c'est pas un livre rare parce que ça m'intéresse pas. Donc c'est quand même symbolique tous les gestes de ça. Donc pour moi, c'est pas difficile, mais je peux comprendre très bien le respect que Nathalie a aussi, et moi aussi, de ces livres-là.
C'est un autre geste de cutter, ou d'ailleurs je ne sais pas ce que vous utilisez comme outil, Eva Jospin, mais qu'est-ce que vous attribuez comme qualité ou comme symbolique ou comme, je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait de couper ce carton?
Bah, en fait, alors le cutter, ça devient comme un crayon. Exactement. Donc pour moi, c'est un dessin. Et c'est un dessin un peu magique parce que comme le carton a une épaisseur, selon la tranche, qu'on soit dans le sens de la canure ou à contresens, selon qu'on mette un biais ou pas un biais, qu'on coupe droit ou qu'il y ait une légère pente comme ça, il y a quelque chose qui va apparaître immédiatement en fait, au-delà de la forme. Donc c'est ça qui... C'est ça qui est un peu merveilleux.
Et c'est vraiment créateur, alors. Ça veut dire que c'est vraiment un geste de...
Complètement.
Quelque chose en apparition.
Absolument. C'est... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que je crois que ça réunit un peu beaucoup au fond, de techniques que j'aurais voulu toutes faire, c'est-à-dire le dessin, que j'adore, la sculpture. C'est-à-dire que la sculpture, c'est la même chose. C'est vraiment tailler de la pierre, c'est ôter. C'est ôter de la matière et arriver au cœur d'une forme qui existe peut-être déjà potentiellement à l'intérieur. Le dessin, c'est faire apparaître. La gravure, c'est la même chose. Mais moi, il y a aussi un peu la marqueterie. Il y a un peu tout
à fait.
Plein d'éléments, en fait. Et c'est vrai que ce travail de découpage, de collage, permet d'avoir la sensation à un moment, pour moi, hein, peut-être d'être comme une tailleuse de pierre d'une belle gargote au Moyen-Âge, de faire une gravure incroyable, d'être dans la légèreté du trait, juste du trait, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un trait de crayon sur du papier. C'est immanquable. Juste ça, la graphite et la couleur du papier et la texture, c'est d'une grande beauté. D'ailleurs, souvent, les artistes ont un plus beau dessin que leur peinture, parce qu'il y a une pureté, une
rigueur. En
tout cas,
il y a une émotion spécifique à l'esquisse.
Et puis, il y a le geste, la main, la fragilité, ça rappelle aussi... Mais quand même, je veux dire, les deux choses, il y a trois choses que les enfants font tous. C'est à 9 mois se dandiner sur de la musique, puis jeter des choses, puis dessiner. C'est quand même des éléments qui se retrouvent dans toutes les cultures. Et on ne sait pas pourquoi on fait ça instinctivement, on ne le sait pas. Mais c'est quand même quelque chose, ce geste de dessiner, de faire, de marquer, de tracer, c'est permanent. Et dans, voilà, donc je pense que, en tout cas...
C'est un peu l'angoisse de la page blanche pour quelqu'un qui dessine, je pense. On n'ose pas salir la page.
Oui.
Et le cutter dans un livre, c'est pareil. À partir du moment où le cutter est sincère, ça y est. Il faut que ça démarre.
C'est un geste qui a peu de retour.
S'arrêter, voilà.
Mais le papier peut couper aussi. Ça fait très mal.
Oui, il est pas très sympa.
Oui.
On se rend pas compte, mais les artistes qui travaillent le papier se font un boulot
souvent.
D'équipe.
Oui.
C'est le papier aussi. Il est pas très sympa.
Nathalie Boutier, vous parlez tout à l'heure de l'encadrement, de dire que le papier bible, on sait que c'est doux jusqu'à ce qu'il passe derrière le verre, ce qui pose la question de la durée des œuvres et de la manière dont vos œuvres vivent dans le temps, de leur conservation. Comment est-ce que vous travaillez et pensez ce sujet-là les unes et les autres ?
Alors, il y a différentes solutions. C'est pour ça que je fais appel à du papier japonais maintenant. C'est parce que c'est un papier qui a un pH neutre. La colle est pH neutre, c'est collé sur du carton pH neutre, tout est fait pour que ça tienne, que ça ne bouge pas, les œuvres sont encadrées sous verre anti-UV. Les grands ennemis du papier, c'est l'eau et le soleil. Un verre anti-UV empêche le soleil, et si on ne met pas une œuvre dans une salle de bain, tout va bien. Après, j'aime aussi les papiers qui vieillissent avec le temps. Un livre va prendre une patine, va prendre une couleur. Et là, c'est intéressant aussi parce que si vous prenez un livre qui a 5 ans et un livre qui en a 40, entre ces deux livres-là, il y aura plein de livres qui vont vous donner une gamme de couleurs très étendue dans les bruns jusque très clairs à très foncés.
Vos œuvres dans le temps, Georgia Russell et...
Moi, des fois, il y a des œuvres qui vont durer, des fois pas. Les questions, il ne faut pas que je perde trop de temps à répondre. L'essentiel pour moi, c'est de faire une œuvre qui va avoir un effet psychologique ou émotionnel. Bien sûr, c'est bien aussi que ça reste plus longtemps, mais ouais, il faut vraiment que ça marche plutôt... conceptuellement et figurativement, si je peux dire ça.
Quitte à en faire une expérience du moment, une expérience de l'immédiateté.
Ça, c'est pas non plus mon idée en ce moment, mais c'est vrai que je trouve cette question valable, mais aussi les personnes qui collectionnent les voitures se demandent pas, ils vont garder une voiture 2 ans et puis après c'est fini. Donc pourquoi pas avoir quelque chose qui va peut-être durer un certain, peut-être longueur de nos vies ou 10 ans. Donc moi je suis un peu, je partage les deux côtés. C'est bien si ça dure, mais sinon
préoccupation, c'est pas très grave si une œuvre menace un petit peu de changer ou de se détériorer.
C'est exactement, comme Nathalie a dit, pour le changement de couleur ou pour le vice, il n'y a rien de plus beau de voir un petit collage de Braque ou Picasso qui a pris de l'âge, qui est en train de tomber en morceaux. Enfin, c'est encore plus poétique qu'avant.
Eva Jospin, sur ce sujet ?
Oui, ben c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire que parfois on dit que ce sont des œuvres éphémères. Elles ne sont pas éphémères. Elles auront une durée de vie parce qu'il y a un art éphémère qui est vraiment une installation où il y a certaines œuvres du Land Art qui disparaissent immédiatement. Je pense que nous on arrête notre geste avec un peu plus de temps. Mais sur la question de la conservation. Mais je crois qu'en fait le matériau ne compte pas réellement, parce que s'il suffisait de faire des œuvres en bronze ou en marbre pour qu'elles soient conservées par l'histoire, ça serait en réalité.
C'est ce que j'allais dire quand vous dites ça a une durée de vie. Toute œuvre d'art a une durée de vie.
Toute œuvre d'art a une
durée
de vie. Et surtout, je pense que les œuvres d'art ont une durée de vie qui est liée au hasard et au choix
de
les conserver. Et donc ça, nous. On n'est vraiment pas grand-chose pour savoir si on va être intéressé les gens pour nous conserver. Donc peut-être que personne n'aura envie de nous conserver dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis si on a envie, on aura rendu un service à l'humanité, on les encombrera pas longtemps. Voilà, notre matière va disparaître assez rapidement. Et puis si ça intéresse encore les gens, et ben il y aura peut-être des photos ou peut-être tout ça sera mis sous verre avec des tas de. On n'en sait rien.
Il y a des lettres très anciennes qu'on peut voir dans les musées qui.
Exactement.
Qui prennent une patine.
Qui sont merveilleuses et qui sont encore plus belles. Donc ça c'est vrai.
L'œuvre prend de l'âge. Je pensais aux coiffes de Georgia sur les livres, c'est elles vont vieillir, elles vont pas disparaître complètement, elles vont rester, mais elles vont prendre une patine, une couleur, le papier va se rebiquer et ça fait aussi partie de l'œuvre.
Oui. Et justement, puisque l'on parle d'épaisseur de temps ou d'évolution dans le temps, est-ce que vous vous intéressez les unes et les autres à des gestes de découpe, de pliage, à des gestes anciens dans le rapport au papier ?
Pas du tout. Je passe le papier au massicot sans aucun état d'âme.
Nathalie Boutet, mais l'un n'empêche pas l'autre. Dernière nouvelle, je crois qu'on peut s'intéresser à des gestes et puis par ailleurs les balancer dans des massicots sans problème.
Non, en fait, j'en sais rien. Mais
vous voulez dire les anciennes découpages chinoises?
Oui, voilà. Qu'il y a tout un art de papier.
Oui, bien sûr.
Par exemple,
je ne sais pas,
quand on va dans Panorama et qu'on rentre, moi j'ai aussi eu très vite en mémoire des théâtres de papier que j'ai vus, vieux théâtres de papier indiens ou chinois que j'ai vus au musée du Quai Branly. C'est-à-dire que c'est quand même une matière qui a beaucoup d'histoire dans la manière dont elle est travaillée, découpée, montrée, collée. Ça pourrait vous intéresser.
Moi, je m'intéresse beaucoup à la scénographie, évidemment. Donc c'est vrai que... Et donc et j'adore les maquettes, il y a plein de choses que j'ai regardées, oui bien sûr, mais après c'est pas ça n'est pas aussi direct en fait. Oui. Voilà. Les influences sont multiples dans mon cas.
Pour moi, le geste est pas. J'ai apprécié beaucoup ces choses dont tu mentionnes, mais pour moi, le geste est très expressif et très libre. Donc, je peux pas découper
une
personne ou une fleur rapidement. Moi, même si mon œuvre prend du temps, c'est un geste très répété et très gestural. Gestural. et donc c'est ça qui est important, l'énergie dans le geste pour moi.
Je peux dire qu'on n'y comprend rien au début parce que c'est très très compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est l'écosystème de très loin le plus compliqué qui existe à la surface de cette planète. Le plus compliqué, le plus riche, le plus diversifié. Donc, a priori, l'architecture d'un ensemble comme ça, ça va être difficile à démêler. Bon, les arbres même qui constituent cette forêt ont une architecture qui est programmée dans leur information génétique propre. Et si vous laissez ces arbres se développer sans contrainte, c'est-à-dire avec la chaleur dont ils ont besoin, l'humidité qui leur est nécessaire... Et si vous les mettez à l'abri de tous les prédateurs, de toutes les brisures, de tous les accidents qui peuvent leur arriver, dans ces conditions-là, ces arbres vont exprimer une architecture, d'ailleurs très très belle, c'est extrêmement esthétique. Vous savez que les espèces d'arbres sont extrêmement nombreuses dans ces forêts, ça se compte par milliers. Et l'architecture de chacune de ces essences forestières se modifie au cours de la croissance de l'arbre. La somme de toutes ces architectures individuelles se résume en une architecture de la forêt, c'est-à-dire que la forêt présente des strates, une ou deux ou trois ou peut-être quatre strates, ça dépend si la forêt est très belle, très ancienne ou bien si elle a été plus ou moins perturbée. De toute façon, ces strates existent, on peut les voir dans certains cas privilégiés et elles sont dues fondamentalement à la répartition verticale de la lumière dans la forêt.
La voix de Francis Allais, qui est donc ce botaniste biologiste. Ici, c'est une archive de 1986. Il parle de la forêt. Il pourrait tout aussi bien parler d'une de vos œuvres. Oui. C'est incroyable, hein, Eva Jospin.
C'est
une archive de 1986 qui était diffusée sur France Culture dans la matinée des autres. Il y est question d'architecture, de strates, de répartition de la lumière, mais aussi d'une forme de chaos très organisé qui est le système de la forêt lorsqu'on le laisse un petit peu tranquille. On a beaucoup parlé du livre. Vous êtes à un autre endroit tout de même qui est celui de la forêt. Pourquoi ?
Alors, y a évidemment beaucoup de raisons à ça qui sont à la fois des raisons personnelles, intimes, c'est-à-dire le rapport que je peux avoir à ce lieu, à l'idée aussi du chemin, parce que c'est un peu ça aussi l'idée de la forêt. Et puis c'est aussi parce que c'est un... Donc il y a mon intimité à l'intérieur, le besoin de... L'envie de se perdre, l'envie de s'échapper, il y a à la fois une inquiétude, en même temps un déploiement de l'imaginaire. Donc on se retrouve à la lisière, tiens, de plein de choses qui m'intéressent en art, c'est-à-dire à la fois du merveilleux, de l'inquiétant, il y a un peu du, il y a du beau et il y a du trivial, parce que c'est quand même, j'utilise le carton, donc c'est quand même un rebut aussi. Et surtout, ce qui, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un langage que je peux partager de façon extrêmement directe avec les gens qui
l'image
vont regarder.
L'image de la forêt.
Oui, parce qu'en fait, la forêt est une représentation extrêmement vivante et extrêmement profonde dans la tête des gens, à travers nos promenades, notre expérience physique de la forêt, les contes, l'inconscient. Et puis, c'est toute la culture européenne. Donc, parce que l'Europe était couverte de forêts à 80%. Donc là, une grande partie de notre histoire, le fait qu'on ait voyagé, ça vient des forêts. On a découvert le monde parce qu'on a construit des bateaux en taillant des forêts. Donc, c'est aussi le voyage, c'est aussi la technique, c'est tellement de choses. Donc, c'est vrai que quand on ouvre ce sujet, il se démultiplie comme une forêt. Le nombre d'essences d'arbres dans une forêt, comme disait Francis Allais, on ne peut pas les répertorier pratiquement. Dans les forêts primaires, c'est incroyable. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet qui se creuse et dans lequel je suis rentrée et qui ne m'a pas quittée.
Voilà. Et qui ne vous quitte pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose en effet de l'ordre de creuser. C'est d'ailleurs souvent le geste que l'on peut presque voir quand on entre dans ces forêts. Vous n'avez pas trouvé le bout de la forêt, c'est-à-dire que c'est encore et encore un endroit où vous êtes...
Je l'augmente un peu, donc là, récemment, il y a un petit peu de grotte qui arrive. Voilà, il y a un petit peu de roche. Donc je l'augmente. Je l'augmente de, voilà, il y a aussi la pratique du dessin qui représente aussi ça. Et après, peut-être que là où je le fais évoluer récemment, c'est plutôt par rapport à la végétation, par rapport au mélange des matières. Récemment, j'ai travaillé un balcon avec une espèce de végétation en carton qui dégouline dessus. Voilà, donc il y a d'autres choses qui s'ouvrent, qui sont liées aussi au paysage, en fait. Au rapport qu'on a au paysage, ou au rapport qu'on peut avoir avec l'intrusion de la nature dans la ville. Et le mélange de l'ornement qui est proche de la nature, du balcon par exemple, qui est très humain, et la plante qui va venir dessus, qui elle pousse partout, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui s'agrandissent un peu.
Vous faites le lien entre la forêt et la matière que vous utilisez, la forêt et le papier, ou c'est...
Mais il est presque évident, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler, quand on commence à travailler le papier, évidemment, comme ce sont des gestes très répétitifs et qu'on refait, il y a un rapport au geste qui est très amusant, parce qu'en fait on répète un geste, puis on en trouve un nouveau qu'on va répéter, puis on en trouve un nouveau qu'on va répéter. Donc finalement, en réalité, c'est un petit peu comme ça que se transmet le savoir manuel. Tous les artisans vous le diront, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent tout d'un coup un geste plus pratique, plus intelligent, mieux fait, qui vont transmettre et qui sera répété jusqu'à l'invention d'un nouveau. Et nous, on fait ça dans notre propre... Je suis sûre que vous faites exactement la même chose dans votre propre travail. Et donc, en faisant ça, je me suis rendu compte que la matière, étrangement, du carton avait une similitude avec la façon dont se compose une forêt. C'est assez incroyable.
Voir l'écorce.
Oui, les écorces, le fait qu'il y ait des couches, parce que le carton est alvéolé et par couches. Bon, donc c'est pareil, il y a des alvéoles dans le bois, il y a des couches, il y a des feuilles. Bon, donc ça résonne, il n'y a presque pas de meilleure façon pour représenter la forêt que d'utiliser ce par quoi... le matériau de qui la constitue, c'est-à-dire le carton, le papier, quoi. C'est incroyable.
Georgia Russell, je parlais tout à l'heure de ce à quoi vous arrivez parfois avec ces découpages qui sont des parures, voilà, des formes de d'ébouriffements d'ailleurs. Je ne sais pas si ce mot existe, mais puisque vous en avez inventé un, je le fais aussi. C'est lié à quel univers, à quoi vous faites référence ou avec quoi vous faites lien?
J'ai pas de lien, mais sauf les miennes, peut-être en travaillant, qui s'apparaît, qui vient quand on travaille en fait. Mais ce que je remarque quand je découpe pour faire une sculpture avec un livre, par exemple, c'est justement ce geste qui pourrait être un geste de quotidien qui est devenu permanent en fait. Donc je découpe, mais ça devient quelque chose de permanent, comme l'acte de lire, ça. De rendre cette mouvement des yeux, du cerveau, matière. Donc, je pense que de dessiner, oui, avec le scalpel et de rendre mes gestes permanents, c'est ce qui est devenu important. Et finalement, le papier devient presque, c'est très important, mais moins important, et le geste devient peut-être plus important encore. Donc, un peu comme Agnès Martin qui fait des petits gestes très, très longs, ou au contraire, Jackson Pollock qui va faire un geste. Donc, moi, je suis plutôt, je vais vers ce chemin maintenant. Et aussi, oui, ça me prenne aussi, la couleur commence à me prendre, et de la toile aussi, je commence à découper de la toile. Aussi la toile, il a autre référence aussi. Donc, je pense chacune de nous qui est là aujourd'hui, on va avoir des différents chemins aussi, et peut-être pas seulement rester fidèle au papier. On ne sait pas.
Vous l'envisagez comme ça, Nathalie Boutet, c'est un matériau dans lequel vous pourriez sortir.
Je suis assez d'accord avec elle. Moi, j'ai été
la prégnance du geste.
Beaucoup tentée par les tissus. Mais en fait, c'est à nouveau la même chose. Hein. C'est un assemblage de fibres. On est toujours.
Oui, voilà. C'est une surface.
Voilà, le carton aussi. J'avais visité un moulin à papier à l'ancienne où on sortait les premières épaisseurs de carton. Elles étaient encore gorgées d'eau. C'était une peau. C'était une vraie peau. C'est doux à toucher. Ça prend la forme qu'on veut. Donc là, l'imaginaire part sur des sculptures. Voilà. Et quand j'ai commencé ce travail, je me suis dit. Bon, c'est des languettes, je vais vite arriver au bout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a ça ouvre des portes sur l'imaginaire, sur énormément de choses. Et en fait, je pense que c'est un travail où on n'est pas arrivé au bout encore. Et en ce qui me concerne, le tissu, je pense qu'il est encore loin.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, e oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore è già tardi, e non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto.
Tellement beau. De quoi s'agit-il, Eva Jospin ?
Ah, ça, c'est Ornella Vanoni, qui est une chanteuse italienne. Et voilà, j'adore les chansons italiennes. J'adore... parce qu'en fait, ils ont une chanson populaire, mais...
Qualitative.
Ouais, voilà, exactement. Et j'aime bien, parce qu'en Italie, les gens connaissent les chansons, connaissent les paroles, et donc très souvent chantent. Et c'est drôle parce que même les gens jeunes chantent les chansons aussi bien d'Ornella Vanoni que des chansons des années 80 qui peuvent nous sembler un peu ringardes. Enfin, donc il y a un spectre très large. Et bon, celle-là, elle est merveilleuse. C'est l'histoire d'une femme qui attend. Et donc c'est très beau. Voilà.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues. Par Marie Richard.
Faites mal à personne, un petit peu de temps comme ça, un petit peu de silence, c'est cadeau. 14h52 sur France Culture, à cette heure-ci, justement, nos discussions se suspendent pour faire entendre des récits d'émotions, des moments marquants. On va voir quelqu'un et on lui demande d'identifier 5 moments de bascule, quelque chose qu'il comprend, quelque chose qu'il ressent. Cette semaine, c'est le créateur sonore Dominique Petitgand qui s'est prêté au jeu et il décide justement de ne pas tout comprendre.
On parle d'un jour, je me retrouve dans une grande salle avec plein de monde venu assister à la lecture d'un écrivain qui lit des extraits de son livre. Et il y a peut-être 200 personnes dans la salle. Il y avait même tellement de monde que les gens étaient debout et tout ça. Et régulièrement, les gens, mais s'esclaffent, rigolent. Quoi. Et tout le monde rigole. Et moi, je suis le seul à ne pas rire parce que je ne comprends rien. Et c'était pourtant en français, donc une langue que je connais à peu près. Et le sens du texte m'échappe totalement. Et donc, je me rends compte que j'ai un handicap, c'est que je n'arrive pas à comprendre le texte quand on me lit quelque chose. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, j'écoute, mais je n'écoute pas le texte. J'écoute autre chose. Et de la même façon, quand quelqu'un, par exemple, veut m'expliquer un truc très précis. Par exemple, quand on m'explique un itinéraire. Ah, il va falloir que tu ailles par-ci, par-là. Et donc, il va falloir à un moment donné que je mette de côté mon écoute flottante. Il faut que je me concentre sur le mot à mot, finalement. Le décryptage. Que je ne comprenne que le sens et rien d'autre. Et là, je m'ennuie, mais terriblement, et j'arrive pas à aller au bout d'une phrase. Et je m'échappe tout de suite.
Et c'est votre ennui qui fait que vous laissez de côté la possible concentration qui permettrait la compréhension.
Alors l'ennui, c'est le mot que j'aurais peut-être pas dû utiliser, le mot ennui. C'est pas un ennui, c'est plutôt j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de voir tout ce qui se passe, j'ai envie d'être comme une mouche qui ne focalise pas sur un point de détail, mais qui va partout, qui regarde de devant, derrière, à côté, en haut, qui écoute tout. Voilà, j'aime tous les détails de quelque chose, d'une situation. C'est pas que le sens m'intéresse pas, c'est que du coup, je mets le sens en dernier. Donc si j'arrive à l'avoir, oh, c'est heureux, mais ce n'est pas en premier. Je ne vais pas mettre le sens au détriment de tout le reste qui me semble plus intéressant. De la même façon que, par exemple, si je vais voir un spectacle, j'aime être dans une position où je peux voir la scène et la salle. J'aime voir les deux, voilà. J'aime voir tout, différents aspects d'une chose. Et donc, quand on est à l'école ou quand on explique quelque chose à quelqu'un, on lui dit « ferme tes oreilles ou ta pensée, concentre-toi sur une seule chose ». Et c'est ça que c'est même pas que je n'arrive pas à faire, c'est que je n'aime pas faire. Évidemment, là, c'était plus vécu sous le régime de la perte ou pas de l'absence ou du déficit. Voilà, il me manque cela. Et j'étais tellement seul au milieu des autres que je me réjouissais pas parce que j'étais plutôt à me dire « Merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas comme les autres à ce moment-là » Et puis donc, en fait, toutes les quelques secondes, j'essayais de me reconnecter au sens et à la fin d'une phrase ou deux, je m'échappe. Et je préfère le dialogue. J'aime plutôt dialoguer avec quelqu'un. C'est vraiment interagir en permanence. You used to call me on my cell. You heard me nice at night. You used to call me on my cell. You heard me nice at night. I know when I holler at me, that could only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Boy, you got me down and got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started getting dressed and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some dudes I never seen before. To call me on my cell, you heard me twice at night. You used to call me on my cell, you heard me twice at night. I know when that hotline bling, that could only mean one thing. I know when that hotline bling, that could only mean one thing.
214 witness.
People say just let it go.
Une émission de Diva qui se termine par Erika Badu avec cette reprise de Drake. Le morceau initial s'appelle Hotline Bling et celui-là s'appelle Cellular Device. Merci beaucoup Eva Jospin, merci Nathalie Boutet, merci beaucoup Georgia Russell d'avoir été avec nous. Vous avez une actualité riche les unes et les autres, ce serait très long et peut-être pas forcément très audible de le dire comme ça, donc on va tout mettre sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouvelles Vagues. On peut écouter, réécouter cette émission sur cette même page des Nouvelles Vagues, on peut aussi s'écrire via une petite enveloppe rouge, on peut aussi s'écrire via Twitter et Facebook. Merci à Romain de Bac de Lièvre, Alice Ramon, Inès Dupéron qui pense et prépare cette émission avec moi. Merci à Lise Combe qui la réalise avec aujourd'hui aux manettes Jean-Frédéric, c'est au droit d'auteur, Elisabeth Gornet.